Et si l'enfance n'était qu'une fiction, un on-dit, on dit que tu étais ceci ou cela, une photo, un mot, une scène minuscule, et hop, tout un monde qui se raconte, s'invente, s'interprète, se brode.
Pascal Paradou.
Comment raconter une enfance ? Beaucoup d'écrivains, d'écrivaines revisitent cet âge dans leurs livres. Marine Diaye ne fait pas exception à la règle. Prix Femina pour Rosie Carpe, prix Goncourt pour Trois femmes puissantes. Elle est au cœur de son nouveau livre, Le Bon Denis, avec pour preuve une photo d'elle enfant, avec des couettes, un air rêveur et un pull jaune. Bonjour Marine Diaye.
Bonjour.
Vous aviez quel âge sur cette photo ?
C'était une photo de classe, j'avais je pense 4 ans.
Oui. Et vous rêviez à quoi ?
Je ne sais pas si j'ai un rêveur, moi je me trouve un petit air tristounet.
Un peu absente, c'est vrai.
Un peu absente, oui, comme sur toutes les photos de mon enfance, enfin toutes, le peu que j'ai, où j'ai cet air un peu ailleurs, sans grande joie, alors que j'étais une enfant joyeuse, mais voilà.
Mais que diriez-vous de votre enfance, justement ? Elle a été joyeuse ? Elle a été heureuse ?
Oui, elle a été peut-être plus heureuse que joyeuse, au sens où la joie n'était pas ce qui la baignait, mais le contentement d'être là, et puis une mère aimante, un frère aussi, des vacances à la campagne chez mes grands-parents que j'adorais, voilà. Mais je suis née en 67 et l'enfance dans les années qui ont suivi n'était pas nécessairement tout enveloppée de joie et de soins et d'attention, mais c'était des enfances assez prises dans la bulle de l'enfance et sans que les adultes interviennent beaucoup.
Vous rêviez d'écrire, enfant ?
Je ne rêvais pas d'écrire parce que j'écrivais. Donc j'avais
très
tôt besoin d'en rêver. Oui, oui, oui.
Vous vous souvenez à quel âge vous avez commencé à écrire ?
Je ne m'en souviens pas très précisément parce que quand on est enfant, et le propre de l'enfant, c'est qu'on ne sait pas forcément quel âge on avait quand on a fait ci ou ça, mais j'ai l'impression que je me suis mise à écrire dès que j'ai su écrire, donc peut-être, je ne sais pas, à 6 ans, 7, dans ces eaux-là.
En tout cas, votre enfance, Marine Diaye, a été marquée par le départ de votre père, du foyer familial, et on vous a toujours dit, ou vous avez toujours pensé, je ne sais pas où est la vérité, que c'est lui qui est parti. Et patatras, avec ce livre, Le Bon Denis, votre mère vous dit, au tout début du roman, ou plutôt la mère de la narratrice, nous verrons qui est qui, « Ton père n'est pas parti, c'est moi qui l'ai quitté ». Ça change forcément un peu la perspective.
Oui. Alors vraiment, c'est la narratrice qui parle. Hein.
C'est pas vous du tout.
Ce je est un jeu avec moi-même, mais tous les événements ne sont pas véridiques. Il y a tout un travail avec la vérité ou ce qu'on croit être la vérité, avec les souvenirs d'une mère qui deviennent flous puisqu'elle est très âgée, et les propres souvenirs d'une narratrice qui, de souvenirs, n'en a guère puisqu'elle était très très jeune au moment où son père est parti. Enfin, voilà, c'est tout un jeu avec des mémoires qui se contredisent de fait parce qu'elles ne sont que des mémoires, justement.
Et votre mère va vous raconter, d'où le titre du livre, qu'elle a rencontré un certain Denis, qui est employé de ménage dans le collège où elle travaille, d'où le titre de ce récit, Le Bon Denis. Donc, qui brode ? C'est vous ou c'est elle ?
Les deux. C'est la narratrice, c'est moi, c'est cette mère qui brode parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher, puis qu'elle ne s'en rend même pas forcément compte, ou elle joue avec le fait de ne pas se rappeler, de se rappeler de temps en temps très bien. Mais ça, c'est le travail de la romancière de broder.
Alors, je vous pose cette question et j'utilise ce mot en pensant bizarrement, ou pas bizarrement d'ailleurs, à ma propre mère qui, quand elle lisait un livre, pouvait dire « Oh, elle brode un peu ». Et je suis sûr que si je lui avais fait lire ce livre-là, elle aurait dit « Oh, elle brode, Marine Diaye ». J'aime bien cette idée, ou ce mot.
Oui, alors, quand votre mère le disait, c'était négatif, je pense.
C'était trop... J'y crois pas trop.
C'est ça. Alors que quand je lis moi-même, eh bien, j'ai besoin d'y croire. Et si j'ai l'impression que l'écrivain brode un peu, eh bien, ça me gêne. Donc, moi, j'essaye de broder comme je brode au sens propre du terme, c'est-à-dire je couds, je brode, et j'essaye de le faire aussi finement que je peux, c'est-à-dire lorsque je brode au sens très pratique du terme, j'essaye de faire le moins d'erreurs que je peux, quoi.
Mais vous brodez vraiment ?
Oui.
Vraiment ?
Oui.
Donc vous brodez et vous écrivez ?
Avec du fil, oui. Oui.
Dans le même mouvement, finalement.
Oui.
Ce roman, Marine Diaye, est-il une autobiographie fictive ou une enquête dans les souvenirs ?
J'ai envie de vous dire les deux. Oui, c'est une autobiographie fictive, même si évidemment les deux termes se contredisent un peu. Hein. Mais j'ai l'impression que quand on pense faire une autobiographie non fictive, on n'est pas nécessairement plus juste que quand on est très conscient de faire une autobiographie légèrement fictive, au sens où ce que je n'ai pas, les trous de ma mémoire, je les remplis avec une fiction qui ressemble à ce que j'imaginerais être dans les trous.
Mais rien n'est fixe de toute façon. Est-ce que l'enfance a une vérité ? Quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est une fiction, l'enfance,
oui,
sa propre
oui.
enfance.
Surtout que dans la mienne, il y a très peu de photos, il n'y a pas d'archives. Alors moi, je ne vivais pas du tout enfant dans la misère, hein, mais nous avions, ma mère, mon frère et moi, une vie très modeste. Et la vie modeste de ces années-là, cela impliquait qu'il y ait très peu d'images, il n'y avait pas d'écrit, c'est-à-dire que les photos dans mon milieu, ça coûtait cher déjà, donc on en prenait peu. Et puis il n'y avait pas cette même idée, je pense aussi, de transmettre des traces. Donc mon enfance est très peu référencée, archivée. Et donc, de fait, mon enfance, les souvenirs que j'en ai sont ceux que je m'en suis fait, mais je n'ai pas de preuve que ma mémoire soit juste.
Sur les traces de sa mémoire, nous sommes aujourd'hui avec Marine Diaye, et je suis heureux, Marine Diaye, de vous faire entendre une voix étonnante, qui est celle de l'artiste franco-camerounais Yamé. Son nouvel album vient de sortir avec ce titre « Shoot ».
Ah, j'adore, Yamé.
Vous connaissez ?
Ah, bien sûr, ah oui.
Alors voilà, nouvel album.
Ah, merci.
Me prends pas la tête, je me casse d'ici, j'emporte ma verre. C'est elle ma reine. Nous deux c'est toxique pour la vie. Ça sera toi et moi dans l'arène. Entre le love et la haine. T'es comme toi, j'en fume à perte de vue. Mais est-ce que je finirai pas en perdre la vue? Me dis que c'est pour l'inspire et qu'un est hyperactif. J'allume mes cordes, le chromie. Je voudrais chanter toute ma vie. Shoot. la nuit. J'ai toujours su qu'elle était ton prix. Mais encore une fois, juste une dernière dose. Faut continuer de faire des sorts. Que le daron plus qu'il débellise. Je m'inquiète, sa santé se fragilise. Donc une dernière fois, je me carbonise.
Sur RFI, extrait de son nouvel album intitulé Ébène. Alors, il n'y a aucune musique évoquée, en tout cas, pas de musique spécifique outre celle de la langue dans votre nouveau livre, Marine Diaye. C'est pourtant souvent lié à l'enfance. Vous avez un souvenir musical de votre enfance ou pas du tout?
Mon plus grand souvenir musical, c'est Dave.
Ah ouais?
Dave.
Qui chantait...
À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Voilà. Et j'ai découvert Proust beaucoup plus tard. Pour moi, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'était Dave et j'étais très, 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 très amoureuse de Dave.
Le bon Denis, votre livre, Dave n'y figure pas, mais est quand même le récit d'une enfance, mais plus exactement d'une sorte de réminiscence, puisque un homme prénommé Denis aurait pris soin de vous au départ de votre père, c'est du moins ce que raconte la mère de la narratrice, comme si vous étiez sa fille, c'est l'expression employée. Et si votre écriture est très enveloppante, tout d'un coup, à certains moments du livre, elle bute sur une expression comme celle-ci, parce que à partir de ces quelques mots se construit un récit. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, le souvenir et l'enfance?
Disons que ça fonctionne en ce qui me concerne dans l'écriture, oui. Il y a des mots, des expressions, des bouts de phrases qui me donnent envie d'écrire ou qui me donnent l'idée d'un processus d'écriture, d'une histoire, en effet, oui.
Et il va y avoir un effet de viralisation puisque la narratrice, de ce moment-là, va voir des Denis partout. Et alors c'est assez drôle parce que tout au long du livre, il y a plein de Denis et c'est jamais le même.
Oui, il y a de nombreux Denis et c'est une figure un peu fantomatique, énigmatique, qui change d'âge, qui change de personnalité selon les récits. Mais c'est en effet une image, une silhouette, un prénom qui relie les quatre... récit de ce roman, en effet.
Oui, il y a en effet quatre chapitres, quatre oui. récits à des moments... C'est la même histoire, enfin, c'est la même mmh. narratrice, mais ce sont des moments différents de sa vie. Pourquoi Denis?
Ah, pourquoi Denis? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement. Quand on rêvasse autour d'un livre, voilà, le prénom vient et c'est une évidence.
En tout cas, Denis est l'incarnation de la bonté, puisque le titre du mmh. livre le dit, c'est « Le bon Denis ». En quoi il est l'incarnation de la bonté et qu'est-ce que la bonté, Marine Diaye? Parce que vous donnez des définitions différentes dans le livre.
Alors c'est toute la question que se pose la narratrice qui mène son enquête au sujet de ce bon Denis qu'il aurait élevé pendant les deux premières années de sa vie. Et précisément, quand elle interroge des gens qui ont pu l'approcher, ce Denis, eh bien... Ils ne savent rien dire d'autre que c'était un homme bon, mais sans définir en quoi cette bonté précisément se manifestait.
Il y a des hypothèses.
Il y a des hypothèses, mais...
On dit que c'est un homme de gauche, comme oui, si ça alors, suffirait.
Oui, bon. Ça c'est une blague, c'est une farce, mais...
On dit la bonté comme un parfum, dit la mère.
Oui, c'est quelque chose d'évanescent, de puissant, mais sur quoi les personnages ont le plus grand mal à mettre des mots. Et c'est ça qui me plaisait dans ce questionnement que je me suis fait à moi-même. La bonté, c'est quoi? C'est-à-dire, on sait ce qu'est la gentillesse, on sait ce qu'est la bienveillance, la tendresse, l'amitié, etc. On sait donner des exemples de toutes ces notions. La bonté, finalement, c'est très difficile d'en donner des exemples. Et la bonté peut faire peur, elle peut aussi vous aveugler, elle peut être terrifiante, comme le mal, sauf que c'est l'inverse du mal, évidemment.
Alors, quand je disais tout à l'heure que Denis est partout dans votre livre, Marine Diaye, vous donnez une clé dans ce récit, puisque vous racontez l'histoire de votre père, dont on ne connaît pas le nom, et vous semblez réaliser pourquoi votre père est parti. J'aimerais que vous lisiez un extrait de votre livre, donc « Le bon Denis ». C'est le chapitre 3.
Je n'ai jamais pensé que mon père, venant de Dakar, bien pourvu à Paris, avait pu avoir des sentiments, si grande était sa chance déjà. Je n'ai jamais pensé que mon père avait pu éprouver, venant de Dakar, d'autres sentiments que l'amour pour la France, pour maman et pour moi. Que lui fallait-il de plus? Je n'ai jamais pensé que mon père avait pu souffrir, lorsqu'il avait dit son prénom, que Pépé lui répondit « On t'appellera Denis, c'est plus simple, et puisque Denis est un joli prénom. » Certes, il m'est arrivé de penser, enfant, quand mon Pépé, au cours d'un repas familial, me désignant de sa fourchette, déclarait elle serait jolie si elle n'avait pas d'aussi grosses lèvres, de penser fugitivement que mon père avait pu être l'objet, à cette même table joyeuse, de réflexions blessantes, quoique lancées sans mauvaise intention. Ainsi qu'on parle devant lui d'un chien, de ses défauts, sachant qu'il ne peut pas comprendre, sachant aussi que, même s'il comprenait, il n'éprouverait rien de pareil à nous. Je n'ai jamais pensé que mon père avait pu souffrir d'être un immigré, un exilé, même chanceux, puisqu'il n'avait pas, lui, risqué sa vie dans le voyage. Je n'ai jamais pensé que mon père, rien.
Extrait de Le bon Denis avec cette phrase surprenante et ce mot « rien ». Je n'ai jamais pensé que mon père, rien.
Oui, j'emploierai un autre temps. Je n'avais jamais imaginé que mon père avait pu être un homme dont les sentiments n'étaient pas ceux que je lui prêtais. Enfin, je ne l'avais jamais considéré comme un être humain à part entière, au sens où j'avais toujours considéré qu'il n'était redevable que de ses défauts, de ses failles, de nous avoir abandonnés, etc. Je ne lui avais jamais prêté d'autre vie que celle que je me représentais.
Mais c'est magnifique, je trouve, de donner ainsi existence à son père, de réaliser adulte que l'on avait pas tout compris, que l'on peut mieux comprendre, et avoir de l'amour pour son père, puisqu'il est peut-être quand même question de ça, car lui-même a aimé à sa façon, mais a souffert aussi à sa façon, mais qu'il était quand même là. Est-ce que c'est le roman d'une prise de conscience pour vous, Marine Diaye?
Oui, d'une prise de conscience, mais je ne parlerai pas d'amour, parce que je ne peux pas éprouver d'amour envers quelqu'un qui ne m'en a jamais manifesté du fait de son absence. Mais l'amour n'est pas nécessaire dans la compréhension. L'amour, ça vient en plus. Mais là, il s'agit juste d'une tentative de compréhension d'un homme avec qui je n'ai jamais vécu.
Cette prise de conscience, c'est aussi celle du racisme dont votre père a été victime. C'est ce que vous racontez dans ces pages. Est-ce que ça a été un déclencheur pour le livre ?
Non, peut-être pas un déclencheur, mais en tout cas, c'est une question qui m'est apparue comme une évidence de traiter, parce que je ne pouvais pas imaginer la vie d'un Africain qui débarque en France au début des années 60 sans que cette question se pose. Et puis mes grands-parents ne l'ont pas bien reçu, enfin, voilà, du fait de son étrangeté.
Mais vous n'employez jamais le mot de racisme, ou même jamais le terme de peau noire. Sombre peau, nez Camus, lèvres grosses, oui. Dites-vous, écrivez-vous.
Racisme, non, j'ai pris soin de ne pas employer ce mot, parce que pour mes grands-parents, donc, qui étaient des agriculteurs en Beauce dans ces années 50-60, le fait de voir débarquer chez eux, devant eux, cet homme qui était si profondément différent d'eux, et les sentiments de rejet qu'ils ont pu avoir, à mon avis, ne relevaient pas de ce qu'on appellerait le racisme aujourd'hui. C'était simplement que cet être était trop profondément étranger pour qu'ils puissent l'inclure dans leur vie. C'était même pas du racisme, c'était faire face à ce qui nous ressemble si peu qu'on ne peut pas le recevoir ni le comprendre.
Mais vous, Marine Diaye, enfant, adulte, vous avez vécu ce sentiment-là aussi de ne pas être comprise, d'être considérée comme très étrangère. Parce que le racisme est devenu de plus en plus prégnant en France, de plus en plus...
Oh non, moins, je pense.
Moins, vous trouvez ?
Oh oui, parce que maintenant, il y a peu de familles dans lesquelles il n'y ait pas de couples binationaux, etc. Non, j'ai l'impression que les choses vont de mieux en mieux.
Et vous l'avez vécu, vous, ce sentiment ?
Alors, non, je ne pourrais pas dire que je l'ai vécu. Je me sentais différente pour d'autres raisons, parce que nous étions élevés par notre mère seule. Maintenant, ce serait banal. À l'époque, c'était rare. Et parce que j'étais métisse, mais le métissage était une forme de protection aussi. C'est-à-dire que le métissage, même à l'époque, était vu comme quelque chose d'assez mignon aussi. Donc, non, je ne me plaindrai jamais d'avoir été victime de racisme dans mon enfance, ni même après.
Alors, la figure du père, en tout cas, absent, présent, traverse votre œuvre. Et je me souviens, c'était en 2004, à la Comédie Française, de la création d'un texte de théâtre intitulé « Papa doit manger » avec Bakary Sangaré.
Je suis revenu. Puis je t'embrassais.
Oh, je ne sais pas. Mon Dieu. Mes enfants n'écoutaient rien de ce que dit papa. Ne faites confiance qu'au professeur pour ce qui est de la vérité.
Les enfants aimeront mieux être du côté de papa que du côté de la vérité. Ma femme, tu es belle. Tu es merveilleuse. Et tu m'honores. Comme tu es aussi magnifiquement blonde. Comme tes cheveux semblent fins et légers. Ma femme, je te retrouve. Je suis riche. Je suis grand. Reprends-moi.
Tu m'as empêché de finir mon apprentissage, mais j'aurais ouvert mon salon. Moi aussi, j'aurais réussi.
Tout ce qu'on peut faire pour exprimer conventionnellement, non pas des regrets, mais une demande de clémence et de pardon, j'y suis prêt. Me mettre à genoux, te prendre les mains, tout ce que tu veux, je peux tout faire. Pardonne-moi. Je te supplie de me pardonner et de me laisser reprendre ma place. Car à présent, rien ne m'attend. Rien ne peut détruire ni froisser papa. Oui, papa est revenu, papa ne vieillira jamais.
De Papa doit manger, cette pièce de théâtre au Bon Denis, votre nouveau récit, roman, il y a toujours cette absence du père. C'est le motif d'une œuvre.
Alors, j'espère que ce ne le sera plus. J'ai l'impression d'en avoir fini avec cette histoire.
Grâce à ce livre ?
Grâce à ce livre, oui, oui. Et puis, grâce à mon âge aussi, j'ai envie de passer à d'autres fictions, d'autres motifs maintenant.
Alors, dans Le Bon Denis, je ne vais pas raconter la fin, mais vous fictionnez un père que vous allez retrouver qui vit aux États-Unis, qui est directeur d'un hôtel. Et sans raconter la fin encore une fois, vous croisez à cette occasion, à l'occasion de ce voyage, un certain Denis. Je veux quand même revenir sur les quelques mots de ce roman, pratiquement les derniers mots. C'est les mots de liberté. Libre, enfin libre.
Oui.
C'est parce que vous êtes débarrassé du passé.
La narratrice, en tout cas de cette fin de livre, se rend compte que finalement, elle est libérée du but de sa quête et de son enquête sur le père et que finalement, ce qui lui importe n'est pas d'avoir trouvé un père ou d'avoir trouvé une image de père, mais c'est que la quête soit close, voilà. Libre de la quête.
Et la littérature permet cette liberté ?
Bon, en tout cas, elle nous y aide, oui, comme auteur ou comme lecteur aussi, oui, je pense. Mais les arts en général, l'art.
Mais quand vous écrivez, quand vous êtes à la table de travail, dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous autorisez tout ? Est-ce que vous maîtrisez chacun des mots ? Parce que c'est une écriture, je l'ai dit, je crois, très, très, très enveloppante, très large, très ample, et en même temps extraordinairement précise.
Je ne maîtrise pas chacun des mots, je ne maîtrise pas grand-chose, si ce n'est une narration que je veux quand même assez fluide. Mais l'écriture crée son propre processus de création, c'est-à-dire quand j'écris, c'est l'écriture qui m'entraîne. Moi, bien sûr, je choisis mes mots, etc. Mais je ne les choisis même pas tant que ça. J'ai l'impression vraiment que c'est le processus créatif qui crée l'histoire.
C'est mystérieux.
Oui, bah oui. C'est mystérieux et ça ne m'intéresse pas plus que ça de creuser le mystère en question.
Quel est l'auteur ou l'autrice qui vous est le plus proche, Marine Diaye ?
Oh, il y en a trop, il y en a plein. Enfin,
on évoquait proche. Proust tout à l'heure.
Oui, mais...
J'y pense en vous lisant.
Oui, mais Proust, mais Régis Jaufray, mais Lise de Kerangal, mais Joyce Carol Oates, mais Faulkner, mais Dostoïevski, mais Mille.
Vous êtes une grande lectrice ?
Oui, très grande. Depuis toujours, oui.
Et écrire ne peut pas se faire sans lire.
En ce qui me concerne, non. Mais lire, mais largement plus nécessaire qu'écrire. Lire, c'est vital. Écrire, c'est indispensable, mais peut-être pas vital.
Merci Marine Diaye. Le Bon Denis est édité au Mercure de France.
Merci beaucoup.
De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. À très vite.